Parler de COBOL, c'est aussi avoir la chance de pouvoir donner la parole à l'une des personnes qui code toute la journée de travail dessus et parfois après. Leur laisser la parole pour justement aller au-delà du cliché et voir quel est leur vécu réel sur ce langage, ben on s'est dit oui, on pourrait le faire quand même. Nous avons la chance de recevoir Julien Eliès, développeur COBOL, bricole au Fab Lab Digitarn et héritier d'un titre de noblesse breton.
C'est PU carré petit utile.
Pour commencer, honnêtement, une question peut-être très indiscrète, mais quel âge as-tu ?
J'ai 45 ans.
Donc COBOL avait quel âge à ta naissance ?
Il avait 15 ans quand je suis né.
Déjà ?
Déjà, mais c'est, à l'époque c'était un langage jeune, 15 ans.
Ouais, et il a failli te taper dessus quand même à l'école. As-tu déjà développé dans d'autres langages avant de te mettre au COBOL ?
Oui, bah moi j'ai commencé à développer en basique sur un Amstrad. Ensuite, à la fac, j'ai touché au Pascal et au Fortran. Après, professionnellement, j'ai touché au Java et au JavaScript, mais toujours en gardant COBOL en langage principal.
Qu'est-ce qui fait qu'au bout d'un moment, tu t'es dit, ça va être ce langage-là sur lequel je vais me mettre ?
Alors, en fait, c'est pas moi qui ai décidé à la fin de mes études, à la fin de ma maîtrise en 97. C'était le début des grands chantiers de l'euro et de l'an 2000, pour lesquels tout le monde avait besoin de cobolistes en urgence. Si t'avais touché un ordinateur, on t'envoyait faire du COBOL dans les banques, et c'est ce qui m'est arrivé.
T'as pas été touché par la grâce, malgré tout ? Ou tu estimes que c'est vraiment une malédiction ?
Non, c'est pas une malédiction.
Ce serait un petit peu dommage.
Non, à la maison, tu programmes un peu en COBOL ?
Non, pas en COBOL.
Non, pas en COBOL.
Non. J'ai pas de mainframe chez moi.
Bah ouais, mais il y a un petit microfocus sur PC. Ça.
Ouais, ouais.
En licence
ouais.
Libre en plus.
Oui, voilà, ouais.
Sans arrière-goût.
Sur Linux, il y a du COBOL. On pourrait, mais non.
Mais non.
Ouais. D'après toi, qu'est-ce qui fait la popularité de COBOL ? Les commerciaux d'IBM, la standardisation entre constructeurs, ou que la NASA s'en est servi pour envoyer des paquets à travers tous les États-Unis pour envoyer des hommes dans l'espace ?
Alors, avant tout, c'est sa simplicité, en tout cas pour l'époque. À l'époque, on programmait surtout en assembleur. Quand Grasshopper a voulu écrire un programme qu'on pouvait écrire en anglais, les ingénieurs lui ont rayonné en lui disant que les ordinateurs ne parlaient pas anglais. Et pourtant, voilà, elle a écrit ce langage. Après, au niveau conquête spatiale, le COBOL n'a pas été utilisé en tant que tel dans...
Si, pour dans gérer la paix à la NASA.
Voilà, pour gérer la paix pour tout ce qui est gestion. Après, le code embarqué, lui, était en assembleur et tous les calculs étaient réalisés en Fortran. Mais effectivement, il y avait du COBOL au MIT à l'époque. Ouais.
Quelle était la particularité qu'a amené COBOL par rapport aux autres langages de l'époque qui préexistaient, notamment Fortran, Forth et tout ça ?
Alors, je dirais une plus grande proximité avec le langage naturel, avec des ordre en anglais assez basique, et puis un typage fort qui permettait de bien gérer tout ce qui était calcul financier. Il n'y avait pas de virgule flottante, voilà, c'était que des virgules fixes.
Donc ça va être pas mal pour toi.
C'est structuré aussi.
Oui, c'est très structuré. Pour le coup, oui.
Par rapport à un langage moderne, COBOL impose une mise en forme, j'en ai parlé rapidement, est-ce que tu le trouves même plus strict que le Python?
Oui, parce que en COBOL, il faut décrire toutes ces variables en tête de programme, que ce soit en type, en format, en structure. En Python, de mémoire, c'est quand même plus.
Non, c'est tellement flou que on s'y perd des fois.
Ouais. Non, en COBOL, c'est pas flou, hein. C'est assez strict.
Ce qui est flou, c'est les gotos.
Oui, mais ça, c'est interdit maintenant.
On a dit qu'on arrêtait.
On a plus droit les gotos.
On a dit qu'on arrêtait de taper sur le langage Go. Tôt.
Le goto. Mais moi, j'aime bien le COBOL. Hein. Faut pas croire.
C'est comme tout, il y a du bon et du mauvais.
Ouais,
global.
C'est ça, ouais.
Est-ce que c'est vrai que sur le COBOL, on a à l'origine un format qui est assez précis, qui est très proche en fait du tableau, puisque tu as une colonne de gauche avec les numéros de ligne, une colonne avec la déclaration de ce que va faire la ligne, et ensuite la ligne elle-même, c'est ça. On doit toujours numéroter les débuts de ligne ou
non? Alors c'est plus obligatoire maintenant, c'est un héritage des cartes perforées là aussi, qui a été perdu. C'est plus nécessaire de numéroter les lignes, les six premiers caractères sont libres. On peut y mettre des tags, des numéros de ligne si on veut. Historiquement, on s'en servait en fait pour retrier en fait les ordres sur les cartes perforées, pour pas à chaque fois réécrire des cartes perforées. On faisait des annulés en place en réinsérant uniquement la ligne qu'on voulait modifier. Et après, tout était trié. Donc, c'est pour ça qu'il y avait des numéros liés.
Ah oui, d'accord. Donc, on pouvait mettre dans le bazar et mettre des cartes de patch après.
Voilà, on pouvait mettre la ligne 1, la ligne 2, la ligne 25, la ligne 6.
Tu t'es amusé à ce mode d'écriture ?
Non, non, non. Heureusement, ça s'est
t'as
arrêté
pas fait
déjà.
T'as pas fait de carte
perforée ? Non.
T'as tort. Après, t'as plein de confettis et c'est très drôle au bureau pour faire la fête.
Pour les enfants aussi, c'est pas mal.
Pour en parler rapidement aussi, René Speranza de l'association Silicium nous a amené quelques bouquins derrière.
Oui, la saine lecture pour les masses.
Ouais, et je vois en fait, il y a vraiment de tout, du COBOL objet, du COBOL 74. Il y a même un bouquin d'initiation de la DGT de France Télécom,
oui,
oui. Orange.
Ouais.
Tu crois qu'ils ont encore des trucs en COBOL là-bas ?
Non, non, non. Non, comme la souris est relativement vieille. Ceux-là, ils sont tous vintage. Il y a que le COBOL objet qui date de 96, je crois. Et en plus, il y a un superbe CD à l'intérieur. Si jamais une envie furieuse prenait à quelqu'un ici ce soir de vouloir faire un petit programme vite fait,
Bah ouais, mais le problème, c'est qu'il faudrait lancer le driver sur la S400 et franchement. Du lecteur CD, ça me fait un peu peur.
Encore la S400, c'est moderne.
Oui, je sais. CCPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous recevons Julien Eliès, développeur COBOL. Alors Julien, on a parlé de Grasshopper, de son histoire. Elle a dit, en 1960, dans une conférence, une prophétie qui était complètement inconcevable pour l'époque. Un jour, les logiciels seront, à terme, plus chers que les ordinateurs eux-mêmes. Alors c'était inconcevable à cause du prix des ordinateurs à l'époque et surtout parce qu'on facturait pas tant que ça finalement les logiciels. De nos jours, maintenant, combien cela coûte pour une entreprise de faire tourner un programme en COBOL ?
Alors c'est très variable. Ça peut aller du gratuit avec du Linux et un compilateur COBOL gratuit jusqu'à très très cher sur un gros système bancaire avec du transactionnel et tout ce qui va autour. Mais
est-ce qu'on a une ordre d'idée d'une prix, d'une licence professionnelle ?
Moi non.
C'est quoi ? 5 chiffres ? 6 chiffres ? Sois pas timide, c'est la BNP qui paie.
Ouais, je pense qu'à partir de 100 000 euros, on peut trouver qu'on doit pour commencer à trouver quelque chose.
Ça doit être compliqué.
Microfocus, ils sont connus pour pas faire les prix cadeaux.
Et c'est qui Microfocus du coup ?
C'est l'éditeur phare maintenant.
Actuellement.
Ouais, depuis de nombreuses années, je pense.
Oui.
Depuis, facile, 30 ans.
D'accord. Et Microfocus, c'est une boîte française ou
c'est américain.
C'est américain ? Et c'est une activité qu'ils ont toujours eue ou bien en fait ils ont repris l'activité d'un ancien éditeur ?
Je sais pas ça. Mais bon, ils ont toujours... moi, je connais ça depuis les années 90, où déjà, ils pratiquaient des tarifs de runtime et tout, des trucs aberrants, quoi. Les gars, ils avaient tout...
Non, pas aberrant, ça se vend.
C'est juste très, très cher.
Julien, est-ce qu'il y a une vraie évolution sur le langage COBOL, par exemple ? Est-ce qu'on peut faire de l'objet actuellement avec...
Alors, on peut faire de l'objet. Enfin, en tout cas, ça, les instructions pour travailler avec de l'objet existent, notamment chez Microfocus. Mais j'ai jamais vu déployer ça où que ce soit. J'ai l'impression que c'est plus un buzzword de marketing qu'un réel outil qui puisse être utilisé. On a plus tendance à faire dialoguer du COBOL avec du C ou du Java que faire du COBOL objet.
Ouais, j'ai même vu maintenant qu'il y a un connecteur Node.js COBOL.
Ouais, c'est possible.
S'amuser avec Prototype plutôt que le modèle objet traditionnel, ça doit en défriser certains, j'espère. Peut-on utiliser des bibliothèques compilées dans d'autres langages, justement, au sein de COBOL ?
Oui, alors moi je l'ai déjà fait en C. Je sais que ça peut se faire en Java, mais je ne l'ai pas pratiqué.
Non, la vie est trop courte.
La vie est trop courte encore. Ouais,
mais ça vaut le coup d'essayer.
Et du coup, c'est comment ? C'est via une API ou c'est des connecteurs standards ou finalement c'est binaire, on utilise direct des objets ?
Ouais, pour appeler du C depuis un programme COBOL, on a un ordre call qui fait appel directement au code exécutable C. Pour ce qui est du Java, ça je pourrais pas te répondre, mais pour faire dialoguer du C et du COBOL, là j'imagine que oui, il doit y avoir une API de plus haut niveau.
Le COBOL, c'est un langage qui est relativement simple. Néanmoins, est-ce qu'il y a des frameworks pour avancer plus vite sur certains aspects métiers. Je suppose quand même que depuis le temps que ça existe.
Alors, ça existe. Il y a de nombreuses librairies. On peut même faire des jeux vidéo en COBOL.
Ah, ça, c'est bien, ça.
Oui, oui. Bah, je vous invite à aller voir...
Des jeux financiers, je suppose.
Non, pas du tout. Ouais, je vous invite à aller voir sur GitHub Awesome COBOL de Michael Andrieux, qui répertorie plusieurs frameworks et beaucoup de librairies voilà, en COBOL pour tout un tas, pour l'acquisition de données visuelles, pour les jeux vidéo, pour le DevOps.
Il y a vraiment une scène COBOL en ce moment dessus ou c'est... C'est anecdotique.
Je pense que c'est plutôt confidentiel.
Des démos?
Non. Le cœur de COBOL reste assez business oriented. Ouais.
Non, mais va pas croire qu'on peut faire des screcs en jouant des points mode sur les systèmes 360, toi. Ça.
Et les easter eggs, ça se consiste en quoi dans les programmes brokers?
Si je le dis.
Ouais. Tu passeras pas l'année.
Est-ce que il y a des surcouches pour, entre guillemets, je veux dire simplifier, non mais je veux dire pour faire ressembler le COBOL à un autre type de langage?
Tu vas me parler des AGL, des génies logiciels malheureux. N'arpente pas ce chemin.
Je veux dire, c'est pire qu'un framework en JavaScript.
Alors il y a des tentatives réussies, rares. Quand l'AGL se limite à un aspect technique, on va dire la couche d'accès aux données, ce genre de choses. Mais dès qu'on touche à la logique métier, faire générer du code par un programme automatique, ça donne la plupart du temps une bouillie immaintenable, qui a l'air jolie sur le papier au premier jet, mais 10 ans plus tard, on se maudira d'avoir fait ça.
D'accord. Toi-même, t'as tenté d'assassiner un CTO qui a fait ce choix ou...
Pour l'instant, je cherche le nom du gars qui a fait ça. Malheureusement, je crois qu'il est mort. Ouais, et que les gens perpétuent.
C'est héritier, faut attaquer les héritiers.
Et donc, pour le coup, ça marche comment? C'est, on a un IDE standard, il faut recompiler,
On a un programme qui va générer du code COBOL. En tout cas, un squelette qu'on va pouvoir venir modifier après coup. Ou qui va générer un code COBOL directement fonctionnel. Il y a aussi des AGL sectoriels comme Adelia dans tout ce qui est logistique, voilà, qui sont plus sectoriels là, et qui donnent de meilleurs résultats. Mais les choses un peu génériques comme PackBase ou Telon, PackBase a été arrêté, la maintenance, IBM a arrêté la maintenance de PackBase en 2015. Alors il y a des tentatives de faire migrer du PackBase pour revenir à du COBOL natif, mais bon, c'est... Ça reste quand même de la cuisine.
Et puis, il faut pas compter sur IBM pour proposer ça gracieusement, je suppose.
Non, je pense pas.
Mais c'est vraiment à ce stade, c'est l'appeler. Je veux dire, c'est encore plus dur de trouver quelqu'un qui veut bien travailler sur ces AGL qu'un développeur COBOL.
Disons que là, on va s'adresser à un commercial d'une ESN.
Oh, merde.
Plutôt qu'un de voilà, comme tu dis.
Oh punaise. Voilà. Oh non, pitié, pas ça.
Race maudite.
Et les AGL les plus courants actuellement, est-ce que c'est un peu comme dans certains langages, c'est-à-dire ça dépend suivant les pays ou bien c'est plutôt au niveau global en général?
Non, c'est au niveau global sur dans tout ce qui touche à COBOL, hein, c'est IBM qui a trusté le marché depuis longtemps. Donc qui avait son AGL PackBase qui était déployé internationalement. Telon existait aussi, mais Telon a perdu plus de vitesse, enfin a perdu plus rapidement sa vitesse de croisière que PackBase, dont l'arrêt a été fait récemment en 2015.
On n'a même pas eu d'AGL souverain, Bull, qu'est-ce qu'ils ont fait?
Ah, ma connaissance.
Ils ont du COBOL chez Bull, non? Hein? Ils ont du COBOL chez Bull.
Oui, ils ont fait du COBOL, j'imagine, sur leur machine, mais j'ai pas eu à pratiquer.
T'as pas osé, d'accord. Qui se sert encore du COBOL en France?
Chacun d'entre nous, chaque jour, dès qu'on fait rentrer dans une banque une opération bancaire ou qu'on va voir notre mutuelle, on fait tourner des programmes en COBOL.
D'accord.
Professionnellement, c'est toutes les banques, les assurances, les mutuelles, les administrations. À Pôle emploi, il y a encore beaucoup de COBOL, par exemple. Mais aussi beaucoup de PME ou d'entreprises de taille intermédiaire dont le système informatique a été créé dans les années 80 ou 90. C'est souvent du COBOL qu'il y a derrière.
Il y avait encore des projets qu'on démarrait direct en COBOL dans les années 90. Il y avait une raison pour ce choix ? C'est les commerciaux étaient les plus forts ou bien c'était...
C'était un langage qui tournait bien, facilement. Mmh. Il y avait de la main d'œuvre.
Il y avait
de la connaissance. Mmh. On avait un bon recul dessus. Mmh.
Donc pas de raison de faire différemment de la concurrence, quoi.
Non, en tout cas pas avant le début des années 2000.
Il y a Next Impact qui a fait une requête CADA auprès de l'administration pour avoir... C'était un prétexte, en fait, pour avoir une décision de justice comme quoi le code source de l'administration devait être traité comme étant un document et donc devait pouvoir être requêté par n'importe quel citoyen. Et donc, les impôts ont mis sur GitHub le code source, je crois que c'est de la taxe foncière.
Tout à fait, tout à fait.
Ça t'inquiète ou ça te rassure que ça soit en COBOL?
Alors, ça me rassure que ce soit en COBOL. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a un de leurs programmes qui peut pas marcher en l'état.
T'as regardé ?
J'ai regardé les programmes. Quand on fait un read sur un fichier qu'on n'a pas ouvert avant, ça peut pas marcher.
Ah merde ! Ouais. Ils l'ont pas vu ou c'est une inclusion ?
C'est pour tromper les Chinois.
À mon avis, c'est pas le code qui est en production qu'on a sous les yeux. J'espère.
D'accord.
Sinon, il y a eu un souci sur la taxe foncière en 2018. Sinon.
Ah,
c'est peut-être pour ça qu'on paye trop cher.
Ouais. Est-ce qu'il y a du potentiel de recrutement en COBOL? Est-ce que quelqu'un qui se reconvertit est assuré de trouver un poste?
Alors oui, il y a du potentiel. L'assurance de trouver un poste, je dirais oui, à condition d'être mobile. Mmh. Surtout quand on commence, faut accepter d'être dans les bassins d'emploi où il y a une forte demande. Et ça va être plutôt Paris, le Luxembourg. Faut peut-être accepter de s'expatrier pour aller en Suisse ou au Royaume-Uni. Voire à Niort.
À Niort, ah oui.
Qui c'est qui est à Niort ?
Ah ben, c'est les assurances.
Ah oui. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a encore des formations professionnelles en COBOL ? Tu disais que tu as eu une formation donc, il y a 20 ans.
Oui, il y a 20 ans, 25 même maintenant.
Mais est-ce qu'actuellement, tu sais si c'est encore dans le programme ?
Alors, ça commence à revenir, ça avait disparu. C'était sorti des programmes de quasiment toutes les formations diplômantes et ça recommence à revenir vu que le programme refuse de mourir, que le langage refuse de mourir.
Ouais, c'est comme les années 80 quoi.
C'est ça.
Oh punaise.
Ça finit toujours par revenir.
C'est terrible. Et les vestes en jean et le bandana. Qu'est-ce que vous avez contre le bandana ? Ça éponge super bien le front. Est-ce que cela veut dire qu'être développeur COBOL, ça condamne à ne jamais créer de projet, à n'être qu'un mainteneur d'un outil historique d'entreprise ?
Alors, pas du tout. Il y a de la maintenance, bien sûr. Il y a toujours du vieux code à maintenir, mais justement, le vieux code a tendance à marcher correctement, à être un peu bug-free. Mmh. Moi, je travaille actuellement sur un nouveau projet qui est 100% COBOL, qui est le développement d'un flux de santé entre...
From scratch. C'est vraiment la création d'un projet.
Oui, c'est vraiment la création. Et dans beaucoup d'administrations ou d'assurances ou de mutuelles, il y a beaucoup de projets nouveaux en 100% COBOL.
C'est amusant ça qu'ils aient fait ce choix. Tu as une idée de pourquoi ils ont pris cette décision ou...
C'est probablement historique. Il y a 30 ans, ils avaient cette architecture et ils ont tellement construit dessus que reprendre l'applicatif...
T'es sûr que c'est pas un drame du recul de l'âge de la retraite et que le CTO est encore là ?
C'est possible aussi, je vais essayer de me renseigner. Il faut que lui et moi on ait une petite discussion.
C'est quoi l'âge du plus jeune programmeur COBOL ? Est-ce qu'il sort de l'école ? Est-ce qu'il a eu l'illumination et s'est dit...
Alors, j'ai pas vu de développeur COBOL qui sorte de l'école.
D'ailleurs, ils apprennent plus. Non
Ou peut-être qu'il a tenté une fois de reprendre un projet en AngularJS et il s'est dit oh non, je vais faire COBOL.
Ouais, COBOL, ça.
Ouais, mais je comprends très bien.
Ouais, bah ouais. Ouais.
C'est CPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous recevons Julien Eliès, développeur COBOL. Dans la programmation, quand on fait du COBOL, est-ce qu'on peut appliquer les préceptes de qualité du software craftsmanship, de l'artisanat logiciel, pour le traduire en français, c'est-à-dire les tests unitaires, l'usage d'un gestionnaire de version, du déploiement progressif industrialisé ?
Complètement. Après, ce sont des processus qui sont pas liés au langage lui-même, au langage COBOL. Le fait de faire des tests unitaires, ça c'est une règle absolue. Ne pas en faire, c'est le huitième péché capital. Voilà, il faut faire des.
Donc on peut faire propre, enfin peut, dans les canons peut, actuels de création.
Bien sûr, on peut respecter tout à fait les bonnes pratiques du manifeste agile ou du software craftsmanship pour en faisant du COBOL, on peut tout à fait respecter. On peut utiliser un gestionnaire de configuration, on peut utiliser GitHub tout à fait avec des programmes COBOL. Non, on peut.
Il vaut mieux pas utiliser Meurice ou Varnier pour être plus pur.
Alors non, il y a pas de il y a pas de religion en l'état, c'est vrai que ça s'est fait ça s'est fait comme ça.
Plus, ouais.
Ça s'est fait comme ça dans le temps.
Ouais. Mais faut expliquer Maurice. Il va falloir que tu mettes les liens.
Bah c'est comme Agile avec 20 ans d'avance quoi, ou 30 ou 40.
Oui, en clair, c'est complètement ce que l'on ne voulait pas quoi.
Est-ce puis, que voilà, Maurice ça se tient, c'est une méthode complète.
Agile, et du coup tu et du coup tu as déjà vu de l'application justement sur ce type d'application dans des entreprises, sur des postes sur lesquels tu es passé ou ça rentre encore péniblement? Il y a vraiment un problème culturel.
Ça rentre péniblement, surtout sur la gestion de configuration. Suivant les entreprises, les clients, c'est assez disparate. Voilà, chez certains, on a encore besoin d'évangélistes qui prêchent la bonne parole. Chez d'autres, ça se fait petit à petit. Voilà, il y a beaucoup d'éditeurs qui ont toujours eu des logiciels de gestion de configuration, que ce soit PVCS, SVN à l'époque. Maintenant, voilà, il y en a de plus en plus qui passent sous GitHub, mais c'est pas encore généralisé.
Le Code Asile, l'organisme normalisateur qui est à la base de COBOL, donc qui a été créé en 1959, on en a parlé tout à l'heure, c'est eux aussi qui ont normalisé d'ailleurs une méthode de consultation de bases de données à travers l'accès réseau. C'est un organisme qui donc a eu sa petite vie et qui s'est éteint, je crois que c'est courant des années 90. Est-ce qu'actuellement le COBOL est encore un langage normalisé? Est-ce qu'il y a encore actuellement, je vais dire, des organismes certificateurs?
Oui, c'est l'ISO, l'organisme de standardisation internationale qui gère le COBOL. La dernière version date de 2014, c'est pas si vieux.
Ah oui, donc il y a des mises à jour régulières et tout ça?
Alors, faut attendre entre 10 et 15 ans, entre deux versions, mais oui, c'est régulier.
Et du coup, quand on change de version de COBOL, est-ce que ça reste compatible avec l'ancien code ou des fois, il y a vraiment un petit peu de boulot de refactoring à faire?
À ma connaissance, non, la compatibilité ascendante est toujours assurée.
Et quand il y a des nouveaux compilateurs qui arrivent, est-ce qu'on a des gains d'accélération, puissance et tout ça? Ou pas tant que ça?
Pas tant que ça. En tout cas, les compilateurs que je connais sont plutôt anciens. Voilà, les compilateurs récents, les compilateurs gratuits ont tendance à, je dirais, moins efficaces à plateforme équivalente. On peut pas demander à un GNU COBOL de faire aussi bien qu'un compilateur IBM qui est fait pour marcher sur un mainframe. C'est pas les mêmes outils.
Ça, je veux bien croire. Tony Hoare, l'inventeur de la valeur nulle, a dit qu'il avait fait une bourde à plusieurs milliards de dollars. Alors, nulle n'existant pas en COBOL, le langage utilise beaucoup de valeurs magiques. Est-ce que c'est une bonne chose d'enchanter ainsi son code source?
Alors, des valeurs constantes dans un code source, c'est jamais l'idéal, mais en l'occurrence, avec nulle, qui est une valeur purement base de données, on n'avait pas vraiment le choix. La valeur qui est donnée à nul est généralement dépendante des paramètres système. La plupart du temps, c'est la valeur hexadécimale 0,0. Mais là, en l'occurrence, dans le code lui-même, on peut pas faire autrement que d'assigner une valeur arbitraire à la valeur nulle.
Et du coup, est-ce qu'il y a des valeurs magiques pour faire certaines opérations, pour indiquer pas de date ou ce genre de truc?
Non, il n'y a pas d'autres, incongruités de ce genre.
En combien de temps sont implémentées, déployées les nouveautés normalisées dans le langage, puisqu'on parlait tout à l'heure du code asile
Alors, et tout ça, c'est assez long. Il n'y a pas beaucoup de versions. Hein. Il faut attendre. Là, il a fallu attendre 12 ans entre la version de 2002 et celle de 2014. La version d'avant, il me semble, datée de 86.
Avant ou après Jésus?
C'est assez long entre deux versions et il y a pas énormément de nouveautés.
Et l'arrivée d'un compilateur qui supporte ces nouvelles versions, en général, c'est un peu préparé à l'avance ou ça arrive après?
Généralement, c'est préparé à l'avance. Ils ont le temps.
Ils ont le temps, ouais. Donc la normalisation, on a déjà les outils. On...
Oui. Ouais, ouais, ouais.
On peut aller IRA et chevaucher donc les petites nouveautés.
Après, les utilisateurs sont pas tellement à la recherche de nouveautés. Ce qu'ils cherchent, c'est plutôt dans le COBOL, c'est la stabilité et faire marcher l'existant plutôt que la course à une nouveauté. Y a d'autres langages qui font ça mieux que COBOL.
Est-ce qu'il y a un moment où COBOL posera définitivement problème? Genre la définition de date, support de Unicode, le réchauffement climatique.
Alors, pour la date, normalement, on est tranquille jusqu'en 9999. Mmh. Après, je garantis rien. En tout cas, mon code, après, il marchera plus. Mais ça, je l'avais dit dès le début.
Et on espère que la transition soit faite d'ici là ou...
Ouais, on espère, ouais.
Ou une version de COBOL qui prévoit de rajouter un chiffre en plus
Normalement, il devrait pas y avoir beaucoup d'autres versions. Il me semble qu'ils en ont prévu une autre et ils se demandent si ce sera pas la dernière. De ce que j'en ai entendu.
L'Unicode, on peut gérer dedans.
L'Unicode, c'est géré depuis 2002.
D'accord.
Quant au réchauffement climatique, s'il y a plus de codeurs.
Il y a une grande bibliothèque de logiciels. Il y a des repos centralisés comme NPM, par exemple, pour Node.js.
Alors il y a beaucoup de code mais qui est pas forcément partagé, c'est pas une communauté très open source le COBOL. Voilà, dans chaque banque, il y a des utilitaires qui font la même chose dans chaque banque, hein, la gestion des dates
mais écrit différemment quoi.
Écrit différemment bien sûr, sinon c'est pas drôle.
Ça c'est peut-être ce qui fait exploser le prix des projets quelque part.
Bien sûr, oui, réinventer la roue chaque fois qu'on en a besoin. Généralement, chez des utilisateurs de longue date, tout ça est déjà fait, tout ça est déjà amorti, donc il y a plus besoin de le refaire. Mais effectivement, oui, ça, on a réinventé la roue chez chaque client.
On m'avait dit quand même que en COBOL, ce qui était intéressant, c'est qu'à machine équivalente, on a des... Enfin, c'est pas, on m'avait dit, j'ai lu un article d'un type qui a recherché pourquoi les systèmes de base de données sont de plus en plus longs, en fait, et de plus en plus lourds. Et il disait, en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans ces vieux systèmes-là, ils sont extrêmement rapides, parce que la structure est légèrement différente et tout ça. Il y a vraiment un particularisme sur la manière de stocker le donné, de la requêter et tout ça. Ou en soi, t'es pas tellement, ou tu le vois pas à ton niveau.
Je le vois pas forcément à mon niveau, effectivement. COBOL est fait à la base. En tout cas, les gros systèmes, les mainframes, IBM étaient faits pour gérer, voilà, des batchs, hein, du travail de l'eau sur des gros volumes de données. Donc, c'était fait pour aller vite. À l'époque, on chassait le demi-octet de mémoire disponible. Donc, les programmes anciens sont assez optimisés au niveau performance. Mais après, sur des compilateurs plus récents, je ne saurais pas te dire.
Julien, nous arrivons à la fin de l'entretien et donc la question difficile de vos prétentions salariales. Quel est le coefficient de multiplicateur de salaire par rapport à un dev dans un langage plus récent et plus hype? Honnêtement.
Alors, il doit exister, il doit être supérieur à 1. Malheureusement, je vais faire exploser un mythe, il doit être inférieur à 1,5.
Donc c'est pas tant que ça finalement.
Non, c'est pas tant que ça. À moins encore de s'expatrier et d'aller en Suisse, au Luxembourg ou aux États-Unis.
Mais donc finalement, c'est
pas forcément viable en ce moment.
Se forcer à prendre un nouveau langage dans des vieux paradigmes et tout ça, ça paye pas tellement plus que ça.
Ça peut permettre d'augmenter, on va dire, son panel de clients possibles. Mmh. Voilà, ça peut permettre, voilà, de résoudre des problématiques avec du vieux code COBOL avec lequel on voudrait s'interfacer. Mais c'est pas pour devenir riche.
C'est pas pour devenir riche, donc. C'est pas l'Eldorado à l'ouest de la défense, quoi.
Non, non.
Clairement pas. D'accord. Julien Agnès, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et,
merci à toi.
En tout cas, merci d'avoir bien voulu un peu nous démythifier COBOL. René, je ne sais pas si tu as des choses à rajouter justement sur ce.
Moi, j'avais une petite question. Je voulais savoir si c'est possible. Hein. Bon, la marine américaine avait rappelé Grasshopper après la retraite, et je voulais savoir si en France on rappelait les programmeurs après la retraite, parce qu'ils avaient un savoir que les jeunes générations n'ont pas.
Bon, on a fait baisser leur retraite pour ça.
Ah bah c'est ça.
C'est ça.
Ouais, voilà. C'est malin la France, hein.
Ah l'enfoiré. René, Tu nous as amené quelques bouquins au COBOL.
Oui, de la bonne lecture.
De la bonne lecture. Qu'est-ce que tu as, toi, pour faire tourner du COBOL dans ton, dans votre bunker?
On a du PC, on a un petit peu d'IBM, mais on n'a pas des IBM de mon époque, là, des mini genre 34 ou 36. J'ai fait un peu de COBOL, moi, quand j'étais jeune homme.
Disquette 8 pouces, quand même.
Sur disquette 8 pouces, ouais. Et CICS, mais pas grand-chose, en fait. Hein. Après, c'est des PC, quoi. Parce qu'après, c'est gros. Parce que COBOL, ça veut dire gros. Et nous, on n'a pas trop la place, quoi. Et c'est, je le regrette, hein, je le regrette.
Bah, même un iSeries, ouais, ça reste assez gros, quoi.
Ouais.
Oui, oui. Ouais. Ça, on impose. Mais c'est tellement classe dans l'entrée.